Un adolescent, livre 2, suite du chapitre 2. 4. Il faisait très clair. Par ordre du docteur, les rideaux étaient restés joints. Mais Macaire, s'attristant de ne pas voir le soleil, le store n'avait pas été baissé, de sorte que la partie supérieure de la fenêtre restait libre. Et voilà qu'un rayon de soleil tomba droit sur le visage du vieillard. Pendant la causerie, plusieurs fois il pencha la tête, ce rayon fatiguant ses yeux malades. Maman, qui était près de lui, avait déjà regardé la fenêtre avec inquiétude. Il s'agissait tout simplement de la voiler avec n'importe quoi. Pour ne pas troubler la conversation, elle essayait de pousser à droite le petit banc sur lequel il était assis. Il suffisait de le pousser très peu. Mais malgré plusieurs tentatives, elle n'y parvenait pas. De son côté, Makar Ivanovitch, absorbé par la conversation, essayait vaguement de se lever. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Maman poursuivait son manège, et tout cela agaçait terriblement Lise. Je me rappelle ses regards luisants, aigus. D'abord, je ne savais à quoi les attribuer, et la conversation m'enchaînait aussi. Et tout à coup, on entend Lise crier « Mais levez-vous donc un peu, vous voyez comme maman se fatigue !» Le vieillard la regarda aussitôt, comprit, et s'empressa d'obéir. Mais impossible, il se soulevait à peine et immédiatement retombait sur son petit banc. « Je ne puis pas, ma chérie. Vous pouvez raconter des histoires à n'en plus finir et vous n'avez pas la force de vous mouvoir. »«
Lise !» gronda Tatiana. De nouveau, Macaire fit un grand effort.
« Prenez la béquille, vous l'avez sous la main !» intervint encore Lise. « Ah, c'est vrai !» dit le vieux. Et il se hâta de prendre la béquille.
« Tout simplement, il faut le soulever !» dit Versilov qui s'avança.
Le docteur et Tatiana firent de même. Mais déjà, Macaire, s'arc-boutant de toutes ses forces sur la béquille, d'un seul coup s'est élevé. Il s'arrête sur place et, regardant autour de lui,
« Me voilà debout »
proclama-t-il avec un sourire.
« Merci, ma chère, pour ce que tu m'as appris. Je pensais mes jambes impotentes. »
Il n'acheva pas. La béquille avait glissé. Tous firent
« Ah !»
et se précipitèrent. Rien de bien grave. Il était tombé sur les genoux et avait pu se retenir à temps sur la main droite. On le souleva, le posa sur le lit. Il était très pâle. Au nombre des maladies que lui attribuait le docteur, figurait en bonne place une affection cardiaque. Et maman, toute bouleversée. Macaire se tourna vers Lise et d'une voix douce lui dit
« Non, ma chère, vraiment, mes jambes ne peuvent me porter. »
Je ne puis exprimer mon émotion. Dans les paroles du pauvre vieillard, pas la moindre plainte, nul reproche. Évidemment, il n'avait rien remarqué de méchant dans les paroles de Lise, et il avait accepté son observation avec simplicité. Tout cela émut terriblement Lise. Au moment de la chute, elle s'était élancée comme nous tous. Mortellement pâle, elle souffrait sans doute d'être la cause de l'accident. Mais en entendant ces paroles, son visage s'empourpra de honte.
« Assez !» cria Tatiana Pavlovna. « Tout cela vient de cette rage de conversation. Assez ! Que faire de bon si le docteur lui-même donne le signal du bavardage ?»«
Précisément, » dit Alexandra Simeonovitch, qui s'agitait près du malade. « Excusez-moi, Tatiana Pavlovna, il lui faut le repos. » Mais Tatiana Pavlovna n'écoutait pas. Elle observait Lise en silence. « Viens ici, Lise, » dit-elle enfin, « et embrasse-moi, vieille sotte. » Et elle l'embrassa. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait cela. Moi-même, je faillis me jeter au cou de Tatiana. En effet, il ne fallait pas écraser Lise sous les reproches, mais accueillir avec joie et félicitations le sentiment généreux qui s'était emparé d'elle. Telle pourtant ne fut pas ma conduite. Je me levai. Makar Ivanovitch, vous avez employé hier le mot « beauté ». Et précisément, tous ces jours, ce mot m'avait tourmenté.
et je passe ma vie à me tourmenter sans savoir pourquoi. Cette coïncidence des mots, je la crois fatale, presque miraculeuse. Je le déclare en votre présence. » Mais on m'arrêta immédiatement. Je répète, j'ignorais leur convention. Et moi, sur mes antécédents, on me jugeait capable de n'importe quel esclandre. « Faites-le taire !» hurlait Tatiana Pavlovna. Maman tremblait. Makaire Ivanovitch, au spectacle de l'effroi général, prenait peur aussi.
« Arkade, assez !» cria sévèrement Versilov.
« Pour moi, messieurs !» je haussai la voix. « Pour moi, vous voir tous auprès de cet enfant ?» je désignai Makaire. « M'emplit de dégoût. Ici, il n'y a qu'une sainte, c'est maman. Mais elle aussi... »
« Vous l'effrayez !»
prononça le docteur. « Je sais que je suis l'ennemi de tout le monde » bégayai-je. Et me retournant, je jetai à Versilov un regard provocateur.
« Arkade, une scène pareille s'est déjà passée entre nous ici. Je t'en supplie, ne recommençons pas. »
Je ne saurais exprimer avec quelle émotion il prononça ces paroles. Une extrême tristesse paraissait dans toute sa physionomie. Le plus étonnant était qu'il prenait l'air d'un coupable, dont je me serais trouvé le juge.
« Oui, lui criai-je, il s'est passé une scène pareille. C'est quand j'ai arraché Versilov de mon cœur, et quand je l'ai enseveli. Mais après est venue sa résurrection, et maintenant il fait nuit pour toujours. Mais vous verrez tous ici de quoi je suis capable, et avant qu'il soit longtemps, je prouverai... »
Et, sans dire ce que je pouvais bien avoir à prouver, je franchis la porte et grimpai dans ma chambre. Versilov courut derrière moi. 5. J'avais une rechute. Fièvre, et pendant la nuit, délire ou rêve harassant. J'en noterai un, pour ce qu'il avait de prophétique. Je me voyais dans une haute et vaste chambre. Chez qui, je n'aurais pu le dire. Mais pas chez Tatiana Pavlovna. Bien que seule, je sentais avec inquiétude et souffrance qu'en réalité je n'étais pas seule. Quelque part, au-delà de la porte, il y a des êtres. On m'attend et on attend de moi quelque chose. Obsession insupportable. Oh, si j'étais seule! Et soudain, elle entre. Elle me regarde timidement, avec crainte, elle regarde mes yeux. Dans mes mains se trouve le document. Elle sourit pour m'amadouer, elle me caresse, je la plains et commence à la fois à ressentir une répulsion. Tout à coup, elle cache son visage dans ses mains. Je jette dédaigneusement le document sur la table. Inutile de demander, le voilà. Je ne désire rien de vous. Le mépris me venge de toutes les humiliations. Je sors de la chambre, ravi, gonflé d'un orgueil immense. Mais à la porte, dans l'obscurité, Lambert me saisit.
« Saut ! Saut ! »
chuchote-t-il en retenant ma main de toutes ses forces. « Elle doit fonder ici, dans l'île Basile, une pension de jeune fille. » Sous-entendu, pour vivre si le père, édifié par le document, la déshérite et la chasse. Je transcris les paroles de Lambert, telles que je les ai entendues dans ce rêve. « Arkade Makarovitch cherche la beauté !» prononce la petite voix d'Anna Andreïevna. « Quelque part là-bas, dans l'escalier !» Mais ces paroles contenaient non une louange, mais une moquerie acerbe. Je rentre dans la chambre avec Lambert. Mais en voyant Lambert, elle, tout d'un coup, éclate de rire. Ma première impression est un effroi terrible, un effroi tel que je m'arrête et ne veux pas m'approcher. Je la regarde et ne la reconnais pas, comme si spontanément elle avait ôté un masque de son visage. Les traits sont les mêmes, mais chacun d'eux déformé, transformé par quelque effronterie terrible.
« Le rachat, madame, le rachat !» crie Lambert. Et tous deux rient encore plus et mon cœur tressaute.
Oh, est-ce que cette femme éhontée est celle dont le regard m'enflamma de vertu? Voilà de quoi ils sont capables pour de l'argent dans leur haute société, ces orgueilleux, exclame Lambert. Mais elle ne s'offusque pas.
Elle rit précisément parce que je suis effrayée.
Oh, elle est prête au rachat, je le vois. Et qu'est-ce qui me prend ?
Un nouveau sentiment s'impose en moi. Sentiment inexprimable que je n'avais encore jamais éprouvé et puissant comme le monde.
Oh, je n'ai plus de force pour m'en aller maintenant.
Oh, comme il me plaît que ce soit si honteux.
Je lui prends les mains, le contact de leur peau m'affole, et j'approche mes lèvres de ses lèvres perverses, rouges, tremblantes de rire et qui m'appellent. Loin, loin, ce souvenir honteux. Détestable rêve. Je jure que jusqu'à ce rêve maudit, rien d'analogue ne m'avait effleuré l'esprit. Bien que j'ai conservé le document, cousu à ma poche, et que parfois, avec un sourire étrange, je le tâte. D'où donc sort cette idée ? Elle ne peut sortir que de mon âme, elle y était en puissance. Mon âme était donc l'âme d'un monstre. L'âme, comment dire, d'une araignée. Est-ce cela que j'ai voulu prouver quand j'ai quitté avec tant d'éclat la chambre de Macaire ?
Chapitre 3.
1. Trois jours après, un matin, je sortis du lit et soudain me sentis dispo. Je perçus nettement l'imminence de la guérison. Les jours qui suivirent ne présentèrent rien d'extraordinaire, mais ils sont restés dans ma mémoire comme un souvenir doux et tranquille, oasis dans mon existence. Je ne décrirai pas mon état d'âme, sans doute ne me croirait-on pas. Il s'expliquera plus tard par les faits. Je prierai seulement le lecteur de se souvenir de ceci, l'âme d'une araignée. L'âme d'une araignée chez celui qui voulait les fuir, eux et le monde entier, au nom de la beauté. L'inquiétude ancienne avait disparu, et j'ai toute la journée à ma guérison complète, sûre de mes moyens et de mes forces. Ils m'ont pardonné, eux que j'avais traités avec tant de mépris. J'appelle cela l'intelligence du cœur. Versilov et moi continuions à nous entretenir comme les meilleurs amis du monde, gardant toutefois certaines réserves. Dès que l'expansion se montre, nous nous retenons tous deux, comme honteux de quelque chose. Il y a des cas où le vainqueur ne peut pas ne pas avoir honte devant le vaincu, précisément à cause de sa victoire. Le vainqueur, c'était moi, et j'avais honte. Le matin que je me levais pour la première fois depuis ma rechute, il est entré chez moi. Et j'ai connu la convention faite au sujet de maman et de Macaire Ivanovitch. Bien que le vieillard allât mieux, le docteur ne répondait pas de son rétablissement. Je lui donnais de tout cœur l'assurance d'une conduite désormais plus prudente. Je remarquai que Versilov s'intéressait très franchement à ce vieillard, s'y intéressait beaucoup plus que je n'eusse pu m'en douter. Il aime Macaire Ivanovitch pour Macaire Ivanovitch lui-même, et non à cause de maman. Sans Versilov, il est probable que je passerai sous silence nombre de détails que je vais noter. Il m'apprit à l'apprécier à sa valeur. Dans cet homme du peuple, j'ai trouvé quelque chose de tout à fait neuf pour moi, quelque chose d'éminemment réconfortant. Néanmoins, il ne m'était pas toujours facile de rester calme devant certains préjugés où il se cantonnait avec une quiétude révoltante et une foi inébranlable. Ce n'était pourtant imputable qu'à son ignorance. Son âme était assez bien organisée. Je n'ai jamais rencontré la pareille. 2. Contraste. À cette candeur miraculeuse qui, dans la conversation, l'empêchait souvent, à mon grand dépit, de se sentir atteint par l'ironie adverse. S'alliait en lui une subtilité rusée qui donnait parfois de la saveur à ses discours. Il aimait la polémique. À écouter cet homme, on s'apercevait vite qu'il avait beaucoup vagué par nos provinces. En général, il adorait raconter. C'est sur des sujets touchants qu'il exerçait le plus volontiers sa sorte d'éloquence, car il avait l'attendrissement facile. J'ai retenu de lui maintes relations de ses voyages et force anecdotes hagiographiques. Tout récit vraiment merveilleux par la profondeur du sentiment populaire et l'émotion naïve qui les imprègne. Je me souviens notamment d'une vie de Marie l'Égyptienne. De Marie l'Égyptienne et de généralement tous les sujets semblables, je n'avais jusqu'alors aucune idée. Qu'on ne pouvait entendre sans des larmes. Mais certains de ces récits étaient purement gais, pleins de railleries à l'adresse des moines dépravés. Souvent je m'étonnais de cette surabondance de paroles et l'attribuais à la maladie ou à la vieillesse. « Il ne ressemble pas à ce qu'il était autrefois », me dit un jour Versilov. « Auparavant, il était tout autre. Il mourra bientôt, beaucoup plus tôt qu'on ne pourrait croire. » Je goûtais surtout en lui certaines vues très originales sur les événements de la vie courante. Une fois, il racontait par exemple l'aventure d'un soldat en retraite dont il s'était trouvé presque témoin. Le soldat, ses années de service achevées, rentra au pays. Or, il lui était désormais insupportable de vivre parmi les moujiks, et lui-même déplaisait aux moujiks. Le bonhomme perdit la tête de plus en plus, se mit à boire et dévalisa quelqu'un. Malgré le manque de preuves décisives, on l'arrête, on le traîne devant le tribunal. L'avocat, grâce à l'incertitude de la culpabilité, est sur le point d'enlever son acquittement. Quand tout à coup, l'ancien soldat se lève et interrompt l'orateur. « Non, attends, cesse de parler. » Et il raconte tout, jusqu'à la dernière miette, et se repent devant tous avec larmes. Les jurés se retirent pour délibérer, puis ils reviennent. Ils prononcent « non coupable ». Et l'auditoire de se réjouir. Seul le soldat n'a pas bougé. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas davantage ce que le président lui dit en le remettant en liberté. Le soldat part, enfin, et toujours sans rien comprendre à ce qui lui arrive. Il devient pensif, taciturne, ne boit plus, ne mange plus, ne cause avec personne, et le cinquième jour se pend. Voilà ce qu'il en coûte de vivre avec ses péchés sur l'âme, conclut Makar Ivanovitch. Cette aventure est sans doute banale, et les journaux doivent en relater une foule de pareilles. Mais ce qui me saisit, c'est le ton, et plus que tout, certaines paroles exprimant une façon toute nouvelle de voir les choses. En expliquant par exemple comment le soldat revenu au champ déplaisait aux moujiks, Makar Ivanovitch disait « Un soldat, on sait ce que c'est. Un soldat, c'est un paysan dépravé. » Parlant ensuite de l'avocat qui avait enlevé l'acquittement, il s'exprimait ainsi. « Et l'avocat, on sait ce que c'est, la conscience de louage. » Ces deux expressions, il les a employées en passant, et cependant, elles formulent une conception arrêtée sur ces deux sujets. Et pour ne pas représenter l'opinion de tout le monde, elles ne correspondent que mieux à celle de Makar Ivanovitch. « Et comment, Makar Ivanovitch, considérez-vous le péché de suicide ?» lui demandai-je. « Le suicide, c'est le plus grand péché humain, » répondit-il en soupirant. « Mais le juge ici, c'est Dieu seul. Lui seul connaît tout, chaque limite et chaque mesure. Nous, il nous faut absolument prier pour un tel pécheur. Chaque fois que tu entendras parler d'un péché pareil, avant de dormir, prie de toute ta tendresse pour le pécheur. Une prière lui viendra-t-elle en aide s'il est déjà condamné? Qu'en sais-tu? Plusieurs ne le croient pas et il ne faut pas que tu les écoutes. Ils ne savent eux-mêmes où ils marchent. C'est pourquoi, quand tu prieras avant de dormir, à la fin, ajoute « Pardonne, Jésus, à tous ceux pour qui personne ne prie. » Une telle prière est agréable et efficace. Il faut aussi prier pour tous les pécheurs qui vivent encore. « Seigneur Dieu, sauve tous les impertinents. » C'est encore une bonne prière. Je lui promis de prier pour lui faire plaisir. Et en effet, la joie éclaira son visage. Mais je me hâte d'ajouter qu'en pareil cas, il ne le prenait jamais de haut avec moi. Il évitait ce ton morigénant et cet étalage d'expérience qui rend les vieillards insupportables à la jeunesse. Il se rendait compte que s'il avait sur moi la supériorité, contestable, de l'âge, j'avais sur lui celle de la culture. Par exemple, il parlait très volontiers de la vie du solitaire, et il la prisait bien plus haut que celle du pèlerin. Je le contredisais avec chaleur, insistant sur l'égoïsme de ces hommes qui, au bénéfice de leur salut personnel, abandonnent le monde, le frustrant ainsi de leur concours. Tout d'abord, il ne comprit pas. Alors, je lui développai le tableau complet de l'activité utile d'un savant, d'un médecin, en général de tout serviteur de l'humanité, et le menai ainsi jusqu'à l'enthousiasme, de sorte que lui-même m'interrompait à tout moment pour m'approuver. « Oui, c'est cela, mon ami. Que Dieu te bénisse, tu penses la vérité. » Mais quand j'eus terminé, il ne souscrivit pas entièrement à ma conclusion. « C'est cela, soupira-t-il profondément. Mais en est-il beaucoup qui persévèrent dans leur souci du bonheur des autres? L'argent, s'il n'est pas un dieu tout à fait, est un demi-dieu. Et les femmes? Et puis, dans la solitude, l'homme se fortifie pour les œuvres de sainteté. Oui, mon ami. » Cette fois, Versilov était présent. « Makar Ivanovitch, interrompis-je tout à coup, m'échauffant outre mesure. « Vous propagez le communisme absolu. » Il eût été en peine de protester contre ce raccourci d'idées peut-être excessif et cette brusque ellipse qui transposait sa vie solitaire en communisme, car il ignorait tout du communisme et même l'entendait nommer pour la première fois. J'avoue qu'en l'espèce, mon érudition est vague, mais le peu que je sais, je le lui exposais avec feu. Et je me souviens de l'impression extraordinaire que je produisis sur le vieillard. Il se montra friand de détails historiques. « Où ? Comment ? Qui a dit cela ?» C'est là un trait que je crois constant chez les gens du peuple. Une idée générale ne suffit pas à les satisfaire. Ils peuvent s'y intéresser, mais il leur faut autour les détails les plus méticuleux. Dans les détails, je m'embrouillais, et Versilov étant présent, j'en éprouvais de la honte, de sorte que je m'échauffais davantage encore. Et finalement, Makar Ivanovitch, tout en continuant à ponctuer chacune de mes phrases d'un « c'est ça, c'est ça », attendri, ne comprenait plus rien du tout. C'était visible, à mes explications. Le dépit me prenait quand Versilov interrompit la conversation, se leva et déclara qu'il était temps d'aller dormir. Après qu'il m'eut reconduit dans ma chambre, comme je lui demandais ce qu'il pensait de Makar, il sourit gaiement. En premier lieu, Makar Ivanovitch n'est nullement un paysan. C'est un ancien domestique, né de parents en service eux-mêmes. Les domestiques, naguère, passaient pour épouser parfaitement les intérêts de la vie matérielle, morale et intellectuelle de leur maître. Remarque que Makar Ivanovitch s'intéresse surtout à la vie de la haute société. Tu ne sais pas à quel point l'occupent les événements politiques. Autrefois, par des conversations où je mettais aux prises les empires, je le rendais absolument heureux. Il estime beaucoup les sciences, et surtout l'astronomie. N'empêche qu'il réalise le phénomène d'un esprit si rigoureusement indépendant qu'on n'échouerait à rien vouloir y modifier. Il a ses convictions, qui, outre qu'elles sont fermes, sont assez claires, et par surcroît judicieuses. Pour ignorant qu'il soit, il est capable d'étonner soudain par l'ampleur de ses conceptions personnelles. C'est un vrai « cheminot », comme l'appelait si gentiment cet Alexandre Siméonovitch, contre qui, d'ailleurs, tu te fâches mal à propos. Et de plus, il ne laisse pas que d'être un peu artiste. Beaucoup de notions originales, d'autres qui le sont moins, une logique qui parfois boite, un didactisme trop vague, de grands élans de sentimentalité. Je ne parle pas de sa naïveté et de sa bonté. Ce n'est pas à nous à causer de cela. On ne s'étonnera pas que j'aie pu, en si peu de temps, connaître assez bien Makar Ivanovitch, quand j'aurais dit qu'il y avait chez nous quelque chose comme des soirées. Chaque jour, après dîner, la chambre de Makar Ivanovitch nous accueillait. Maman, Versilov, moi, presque toujours Lise, taciturne à son ordinaire, souvent Tatiana Pavlovna, parfois le docteur. À celui-ci, j'avais réussi à m'accoutumer. Guerre, mais enfin il n'y avait plus de choc. En lui me plaisait une certaine simplicité, sur le tard découverte, et aussi une façon de dévouement à notre famille, si bien que je me décidai enfin à lui pardonner son arrogance professionnelle. Je l'avais décidé à se laver les mains, à nettoyer ses ongles et à porter du linge intact, lui expliquant qu'il ne s'agissait pas de devenir un maître des élégances, mais que la propreté est indispensable dans la profession du médecin. Souvent aussi, glissèrent écouter derrière la porte les récits de Makar Ivanovitch. Versilov l'appela une fois et l'invita à s'asseoir parmi nous. Cela me plut fort, mais de ce moment, elle cessa de s'approcher de la porte pour écouter. Chapitre 4 1 Me voici à la catastrophe décisive qui termine mon journal. Mais je dois anticiper un peu et raconter quelque chose que j'ignorais complètement quand j'ai agi et que je ne me suis expliqué que beaucoup plus tard. Sinon, il me faudrait constamment m'exprimer en logogriffe. Pour cet éclaircissement préliminaire, je sacrifierai à la netteté et à la brièveté tout intérêt artistique. Ce sera impersonnel comme un entrefilet de journal. Mon camarade d'enfance, Lambert, faisait partie d'une association louche organisée à Moscou et qui, sous la direction d'un vieux chef, expert et retors, s'adonnait exclusivement au chantage. Dès qu'ils avaient surpris à surprendre les secrets d'une famille, si honorable et si haut placée fut-elle, ils se présentaient, menaçant de divulguer des documents que d'ailleurs souvent ils ne possédaient pas. Chez les personnes les plus recommandables, les plus intactes, il est de ces secrets n'ayant rien de criminel ni de honteux, et que cependant pour rien au monde elles ne voudraient produire au jour. Exemple de leurs opérations. La femme d'un fonctionnaire fort connu et respecté eut une liaison avec un jeune officier. Ils le surent, ils menacèrent l'amant de prévenir le mari. Ils ne possédaient pas la moindre preuve, et le jeune homme le savait, et eux-mêmes ne s'en cachaient pas. Leur calcul fut que le mari, une fois avisé, ne lui fournit-on aucune justification, agirait tout de même que s'il recevait les preuves les plus sûres. Ils étaient informés de son caractère. Ils extorquèrent au galant une somme assez ronde et sans aucun risque, puisque la victime elle-même ne désirait rien tant que le secret. Lambert, prenant goût à cette industrie, commençait à la pratiquer pour son propre compte, mais il ne possédait pas les facultés nécessaires. Non qu'il fût sot, au contraire. Seulement, il était à la fois violent et naïf, et ne connaissant ni les hommes ni la société. Ne comprenant pas l'importance du rôle de ce chef de Moscou, il supposait aisé de diriger et organiser une telle entreprise. De plus, il se figurait tout le monde aussi lâche que lui-même, et que, par exemple, tel ou tel homme, du fait qu'il prit peur dans telle circonstance spéciale, est nécessairement poltron. Il était venu à Pétersbourg parce que depuis longtemps il en rêvait comme d'une scène plus vaste que Moscou, et aussi parce que, à Moscou, il lui était arrivé une méchante aventure, et que quelqu'un l'y cherchait dans les intentions les plus hostiles. À Pétersbourg, il entra tout de suite en relation avec un ancien camarade de classe, mais ses affaires ne restèrent pas moins médiocres. Rien ne réussissait. Quand enfin, par une aube glaciale, il me ramassa dans la neige aux abords d'un chantier de bois. Mon délire lui révéla d'abord tous les noms exactement et même quelques adresses, puis lui procura une idée assez juste de l'importance respective des personnages. Vieux prince, elle, Bioring, Anna Andreevna, Versilov. Il reconnut encore que l'on m'avait offensé, que j'avais des idées de vengeance. Et enfin, qu'il existe un document tel que si on le montre au vieux prince demi-fou, celui-ci, reconnaissant que sa propre fille le considère comme un aliéné, la chassera et la déshéritera, ou se mariera avec une certaine mademoiselle Versilov, à qui déjà il songe, mais qu'on ne lui permet pas d'épouser, etc. Ce document, il ne doute pas que je n'en sois possesseur. Lambert avait donc compris beaucoup de choses. Sans doute, il en restait un grand nombre d'obscurs, mais le maître chanteur était quand même tombé sur une piste sérieuse. Dès que j'eus faussé compagnie à Alphonsine, il se procura mon adresse, de la façon la plus simple, au bureau des adresses. Puis il prit les renseignements indispensables sur toutes les personnes dont j'avais parlé, après quoi il commença à agir. Tout d'abord, il se rendit chez Anna Andreïevna. Comment parvint-il à joindre une personne d'une position si élevée? Cela demeure une énigme pour moi. Je ne pus jamais connaître les détails de l'entrevue. Le plus probable est que Lambert, dès les premiers mots, s'était présenté comme mon ami d'enfance. Sans doute fit-il d'habiles allusions aux « documents » et aux parties qu'on en pouvait tirer en spéculant sur ma rancune contre la générale Akhmakov. Quant à Anna Andreïevna, elle se trouvait précisément dans une situation telle qu'elle ne pouvait pas ne pas mordre à l'hameçon de la « lutte pour l'existence ». Peut-être, et plus probablement, opéra-t-il sans tant d'embâge. Je me l'imagine fort bien, disant « Mademoiselle, ou vous resterez vieille fille, ou vous deviendrez princesse et millionnaire. L'alternative dépend d'un document. Ce document, je le volerai à notre bon jeune homme et vous le donnerai, contre un billet à ordre de 30 000 roubles. » Mais si Anna Andreïevna Versilov, fiancée du vieux prince, convoitait la possession de ce document, il était non moins et plus légitimement convoité par Catherine Nikolaïevna Akhmakov, fille du dit prince. De ce côté, il y avait donc un second coup à faire. Toutefois, Lambert sursit à se présenter chez elle, et pour le moment se contenta de surveiller ses démarches. Il m'attendait. En ce qui me concerne, il adopterait, au gré des circonstances, celle-ci ou celle-là de ces deux façons de procéder. M'associer à son entreprise et agir de concert avec moi, ou bien, et ce devait le séduire davantage, me jouer comme un nigaud et me voler le document. Malgré son impatience, tant que je fus malade, il se retint de paraître à la maison, sauf cette seule fois où il avait causé avec Versilov. Quant à l'hypothèse que je pusse donner, communiquer ou détruire le document, mes paroles chez lui l'avaient absolument tranquillisé à cet égard. Et que j'allasse chez lui tout d'abord et le jour même qui suivrait ma guérison, il n'en doutait pas. Daria Onésimovna était venue chez moi par son ordre. Il savait donc ma curiosité et ma peur déjà excitée. Mais si Lambert m'attendait, Anna Andreïevna m'attendait peut-être avec plus d'impatience encore. Lambert avait peut-être raison de vouloir la trahir, car malgré leur accord, indiscutable pour moi, elle s'ennuageait de réticence, laissant entendre qu'elle consentait à tout, mais ne le disait pas en propres termes. Elle m'attendait. Elle préférait avoir affaire à moi qu'à cette canaille de Lambert. Un dernier mot est le plus important. Versilov, à ce jour, savait-il quelque chose et participait-il déjà au plan de Lambert? Non, non, non. À cette époque, encore non. Bien que peut-être le mot fatal fût déjà prononcé, mais j'anticipe, j'anticipe. Et moi, savais-je quelque chose et que savais-je au jour de ma sortie? J'ai déclaré tout à l'heure que je ne savais rien, que j'ai connu les choses trop tard. C'est vrai. Mais est-ce vrai tout à fait? Non. Je savais déjà quelque chose indiscutablement. Comment cela? Que le lecteur se rappelle mon rêve. Si ce rêve put se configurer comme j'ai dit, c'est que, à défaut de rien savoir de net, je pressentais tout. Et maintenant, au fait. 2. Un soir, 2 jours avant ma première sortie, Lise rentra toute troublée. Il lui était arrivé quelque chose d'insupportable. J'ai déjà parlé de ses relations avec Vassine. Elle datait de Louga. Dans le malheur qui la frappait, naturellement, elle pouvait désirer le conseil d'un esprit ferme, tranquille, supérieur, tel enfin qu'elle supposait Vassine. Les femmes ne sont pas très perspicaces dans l'appréciation d'un homme qui leur plaît. D'ailleurs, elle pensait qu'il avait de la sympathie pour le prince. Mais celui-ci, à qui elle raconta qu'elle consultait parfois Vassine, en prit ombrage. Lise fut offensée de cette jalousie et, par esprit d'opposition, persista à fréquenter chez Vassine. Elle m'avoua plus tard, bien plus tard, que Vassine ne lui avait pas plu longtemps. Sa placidité perpétuelle, qu'au début elle admirait, finit par lui apparaître assez répugnante. Il semblait très expert aux affaires. Il lui a donné quelques conseils bons en apparence, tous irréalisables. Il était trop infatué de sa sagesse et manquait de tact. Une fois qu'elle le remerciait de se montrer toujours indulgent envers moi et de parler de moi comme d'un égal, il répondit « Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Tout simplement, je ne vois aucune différence de lui aux autres. » Ni plus bête que les intelligents, ni plus méchant que les bons. À mes yeux, tous les hommes se valent. Comment? Est-ce que vous ne voyez pas de différence? Oh, sans doute, chacun diffère des autres par quelques points. Mais à mes yeux, c'est comme s'il n'existait pas de différence entre eux, parce que leurs particularités ne m'atteignent pas. Pour moi, tous sont égaux, et tout est égal. C'est pourquoi je suis avec tous également bon. Et cela ne vous attriste pas? Ne vous ennuie pas? Non, je suis toujours content de moi-même. Et vous ne désirez rien? Si, comment ne pas désirer? Mais guère, pas même un rouble de plus. Les places et les honneurs valent-ils ce que je vaux? Lise m'a affirmé que ce furent ses paroles mêmes. Cependant, il faudrait savoir bien exactement dans quelles circonstances il les prononça. Peu à peu, son indulgence à l'égard du prince, indulgence que Lise se persuada due à cette indifférence systématique bien plus qu'à quelque sympathie pour elle, commença à s'altérer, à se tourner en une manière d'ironie méprisante. En vain s'en irrita-t-elle. Vassine s'exprimait toujours avec douceur, il condamnait même sans indignation et déduisait des arguments les plus simplement logiques la nullité du héros et l'illogisme de cet amour. Vous vous êtes trompé dans vos sentiments. L'erreur reconnue, on doit la réparer. C'était précisément ce jour-là. Lise, indignée, s'était levée pour partir. Or, que fit cet homme raisonnable? De l'air le plus noble et le plus sentimental, il lui offrit de l'épouser. Lise l'appela imbécile et sortit. Proposer de trahir un malheureux sous prétexte que ce malheureux n'est pas un aigle, et proposer cela à la femme enceinte de lui, n'était pas mal de la part d'un Vassine si supérieur au commun des mortels. Lise, d'ailleurs, avait compris de la façon la plus claire que la fierté qu'il étalait de ses actes venait de ce qu'il connaissait cette grossesse. Avec des larmes d'indignation, elle courut chez le prince. Celui-ci parvint à être plus saugrenu encore que Vassine. Le récit qu'elle lui fit de l'épisode eut dû le convaincre de l'inanité de sa jalousie. Or, il était devenu comme fou. Tous les jaloux sont pareils. Et il fit une scène terrible et l'outragea tant qu'elle décida de rompre avec lui toute relation. Elle ne put se dispenser de tout raconter à maman. La glace était rompue. Sans doute, selon leur habitude, un instant abandonné, pleurèrent-elles dans les bras l'une de l'autre. Lise enfin se calma, tout en demeurant très sombre.
Elle passa la soirée chez Makaire Ivanovitch sans desserrer les dents, mais attentive à ce qu'il disait. Depuis l'épisode du petit banc, elle se montrait très respectueuse à son égard, encore qu'un peu froide. Mais cette fois, nous n'étions que nous cinq dans la chambre. Tatiana n'était pas venue. Makaire Ivanovitch devait donner à la conversation un cours inattendu. Versilov et le docteur s'étaient, le matin, montrés fort inquiets de sa santé. Depuis quelques jours, on se préparait à fêter l'anniversaire, tout prochain, de maman. Makaire Ivanovitch, à ce propos, rappelait l'enfance de maman. Comme elle ne marchait pas encore, elle ne descendait pas de mes bras. C'est moi qui lui ai appris à marcher. Je la dressais dans un coin, à trois pas de moi, et je l'appelais, et elle accourait, et se jetait dans mes bras en riant et m'embrassait. Je te racontais des histoires, Sophie Andreïevna. Tu les aimais beaucoup. Pendant 2 heures, assise sur mes genoux, tu écoutais. Un jour, je t'emmène dans la forêt, je te mets près d'un buisson de framboisier et je te fabrique un petit flageolet d'écorce. Nous nous amusons et au retour à la maison, tu dors dans mes bras. Et une autre fois, elle a eu peur d'un loup, s'est jetée vers moi. Elle tremblait toute et il n'y avait pas de loup du tout. Je me souviens de tout cela. Si loin que je remonte dans ma vie, je retrouve votre affection pour moi, dit maman d'une voix tremblante et en rougissant. Pardonnez-moi, mes enfants, reprit Makaire Ivanovitch après un silence. Je m'en irai bientôt. Dans ma vieillesse, j'ai trouvé la consolation de toutes les souffrances. Je vous remercie, mes amis. Assez, Makaire Ivanovitch, s'écria Versilov. Le docteur m'a assuré que vous alliez beaucoup mieux. Maman écoutait, effrayée. Qu'en sait-il, ton Alexandre Siméonovitch ? Sourit le valétudinaire. C'est un homme charmant, mais pas plus. Voyons, mes amis, croyez-vous que j'ai peur de mourir ? Aujourd'hui, après la prière du matin, j'ai eu le pressentiment que je ne sortirai plus d'ici. Eh bien, quoi ? Dieu soit béni. Seulement, j'aurais désiré continuer à vous voir tous. Je voulais vous dire quelque chose, André Petrovitch, mais Dieu saura sans moi trouver votre cœur. Oui, depuis longtemps, nous avons cessé de parler de cela, depuis que cette flèche a percé mon cœur. Et maintenant, en m'en allant, je vous rappellerai seulement ce que vous m'avez promis. » Il avait presque chuchoté les derniers mots. « Makaire Ivanovitch, dit Versilov, qui tout ému se leva de sa chaise. Mais le vieil homme continuait. « Dans cette affaire, le plus coupable devant Dieu, c'est moi. Bien que vous fussiez mon maître, je ne devais pas permettre. C'est pourquoi, Sophie, ne te tourmente pas trop. Ton péché, c'est le mien. Tu ne savais pas. Je pouvais te châtier, mon épouse, même à coups de bâton, et devais le faire. Non, je t'ai plainte, quand tu es tombée tout en larmes devant moi, et qu'en m'avouant tout, tu baisais mes pieds. Il n'y a aucun reproche dans ce que je dis là, ma bien-aimée. Je n'évoque ces choses que pour raviver la mémoire d'André Petrovitch. Mais vous-même, monsieur, vous vous rappelez votre parole de gentilhomme. Le mariage couvre tout. Je vous le dis devant vos enfants. Il était très ému et regardait Versilov, attendant de lui un signe d'acquiescement. Versilov, en silence, s'approcha de maman et l'embrassa. Maman s'approcha de Makaire Ivanovitch et s'inclina devant lui. Lise s'était levée sans mot dire. Soudain, s'adressant à Makaire Ivanovitch avec fermeté, « Bénissez-moi aussi, Makaire Ivanovitch, afin de m'aider à supporter une grande souffrance. « Demain décidera de mon sort. Aujourd'hui, priez pour moi. » Et elle sortit de la chambre. « J'ignorais encore bien des choses, et c'est pourquoi je retournai chez moi, tout troublée. » Le lendemain de toute la journée, Lise ne parut pas à la maison. Revenue le soir assez tard, elle se rendit tout droit chez Makaire Ivanovitch. Je voulais ne pas y entrer pour ne pas les troubler. Mais remarquant que maman et Versilov s'y trouvaient déjà, je les rejoignis. Lise était assise près du vieillard et pleurait sur son épaule, et celui-ci lui caressait les joues en silence et tristement. Le prince insistait pour que le mariage se fît dès que ce serait possible. Pour Lise, il lui était difficile de se décider, bien qu'elle n'eût déjà presque plus le droit de se refuser. Et Makaire Ivanovitch ordonnait le mariage. Sans doute tout cela s'arrangerait de soi-même, et elle finirait par consentir. En ce moment, elle se sentait trop offensée par celui qu'elle aimait. Son amour l'humiliait à ses propres yeux. Mais, offense à part, quelque chose de nouveau était survenu, que je ne soupçonnais pas. « As-tu entendu? Toute cette jeunesse arrêtée hier ?» dit tout à coup Versilov. « Comment ? Dirgatchov ? » m'écriai-je. « Oui, et Vassine. » Je fus frappé surtout par le nom de Vassine. « Mais pourquoi ? Que leur arrive-t-il ? Et cela juste au moment où Lise se plaignait de Vassine. C'est Stiebelkov. Je vous jure qu'il y a du Stiebelkov dans l'affaire. » « Laissons, » dit Versilov en me regardant comme on regarde quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne devine pas. « Sait-on ce qui s'est passé et comment savoir ce qui les attend ? Je veux parler d'autre chose. Tu te proposes de sortir demain. N'iras-tu pas chez le prince Serge Petrovitch ? Ce sera ma première visite, bien que, je l'avoue, elle me soit pénible. Avez-vous quelques commissions pour lui ? Non, rien, je verrai moi-même. Je plains, Lise. Et que peut lui conseiller Makaire Ivanovitch ? Il ne comprend lui-même rien, ni aux hommes, ni à la vie. Ah, au fait, il y a de par la ville certains jeunes gens, parmi lesquels un de tes anciens camarades, Lambert. Il y a tout lieu de croire que ce sont de vilains drôles. Je te dis cela à titre de renseignement. C'est ton affaire, et je n'ai pas le droit. Je lui saisis la main sans réfléchir, presque d'inspiration, comme il m'arrive parfois. « André Petrovitch, lui dis-je, je me suis tue jusqu'ici, et vous saviez pourquoi ? Pour éviter d'être mêlé à vos secrets, que j'ai décidé de ne jamais connaître. Je suis un poltron. J'ai peur que ces secrets ne vous arrachent tout à fait de mon cœur, et cela je ne le veux pas. Mais dans ces conditions, et par réciprocité, ma conduite ne doit-elle pas vous être indifférente ? Tu as raison. Plus un mot là-dessus, je t'en supplie. » Ainsi nous sommes-nous expliqués, par hasard et fort peu, suffisamment pour accroître mon trouble devant ce nouveau pas que j'accomplirai demain. De sorte que, toute la nuit, mon sommeil s'en ressentit. Mais j'étais soulagée. 3. Le lendemain, bien qu'il fût 10 heures du matin, je m'efforçai de m'esquiver en cachette. Pourquoi, je ne sais. Mais si maman même avait remarqué mon départ, si elle m'avait parlé, j'aurais répondu par quelque brutalité. À peine commençais-je de respirer l'air vif du dehors, je tressaillis, remué par une sensation indéfinissable, à la fois pénible et joyeuse, toute bestiale, et que j'appellerais carnassière. Je me dirigeai tout droit vers la prison. Je savais combien l'acte que j'allais accomplir, quel qu'il fût, serait décisif et irréparable. Il y avait déjà 3 jours que Tatiana Pavlovna m'avait muni d'une lettre pour le directeur de la prison. Il me reçut admirablement et non seulement autorisa une entrevue avec le prince, mais prêta sa propre chambre à cet effet. Le prince parut dans un costume mi-civil, mi-militaire. Un linge éclatant, une cravate élégante, une raie bien droite, mais sensiblement amaigrie et jaune jusque dans le blanc des yeux. « Comme vous êtes changé !»« Ce n'est rien. Asseyez-vous, mon cher. » Et s'asseyant lui-même, il me désigna courtoisement un siège en face du sien. « Commençons par le principal. Voyons, mon cher Alexis Makarovitch. »« Arcade !» rectifiai-je. « Et, ah oui, cela ne fait rien.
Ah oui, excusez-moi, mon cher, allons au principal. » Il parla beaucoup et rapidement, avec fièvre, s'égarant dans des explications et gesticulant. Tout d'abord, je ne compris absolument rien. « Bref, c'est bien la dixième fois qu'il dit bref. Bref, si je vous ai tourmenté ainsi, si je vous ai réclamé à Lise hier avec tant d'insistance... « Permettez, prince, l'interrompis-je, vous m'avez convoqué ? Lise ne m'en a rien dit ?»«
Comment ? » fit-il surpris, presque effrayé.
« Elle ne m'en a rien dit. Hier soir, elle est rentrée si troublée qu'elle ne m'a pas même dit un mot. »
Le prince bondit de sa chaise.
« Vous me dites bien la vérité, Arkad Makarovitch ?
En ce cas, ce...
« Mais cependant, qu'y a-t-il d'extraordinaire ? Pourquoi vous inquiétez tant ? Elle l'a oublié, sans plus. »
Il s'assit, mais il restait comme étourdi. Que Lise ne m'eût rien dit semblait le désemparer. Soudain, il recommença à parler avec volubilité en agitant les bras. Il s'interrompit tout à coup.
« Attendez, » reprit-il d'un nouvel élan et le doigt levé.
« Attendez, c'est... c'est, si je ne me trompe, des tours, » murmura-t-il avec un sourire de maniaque. « Et cela signifie que... »
« Mais cela ne signifie rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi une circonstance insignifiante vous tourmente tant. Ah, prince, depuis cette nuit, vous vous rappelez ?»«
Depuis quelle nuit ? Et qu'est-ce que je me rappelle ? » cria-t-il, visiblement irrité de l'interruption.
« Chez Gersikov, où nous nous sommes vus la dernière fois, vous étiez aussi sous le coup d'une émotion terrible. Mais entre ce moment-là et le moment où nous sommes, la différence est telle que je suis effrayée pour vous. Est-ce que vous ne vous rappelez pas ?»«
Ah oui, » fit-il du ton poliment dédaigneux d'un homme du monde, et comme se rappelant soudain.
« Ah oui, cette soirée. Eh bien, et votre santé ?» « Comment allez-vous depuis tout cela, Arkad Makarovitch ? Et cependant, passons au principal. Moi, voyez-vous, je poursuis trois buts. Trois problèmes se posent devant moi. »
Et de nouveau, il divaga avec verbosité sur le principal. Je compris enfin que j'avais devant moi un homme à qui il faudrait tout au moins appliquer sur la tête une serviette imbibée de vinaigre. Même... une saignée eût pu être à propos. Son parlage tournait sans doute autour du procès, de son issue probable, d'une visite que lui avait faite le colonel de son régiment, d'une déportation à prévoir dans un gouvernement du Nord, de la possibilité de regagner son grade à Tashkent, de ce qu'il apprendrait à son fils, futur, celui de Lise, là-bas dans le trou à Arkhangel ou à Kolmogory. « Si je désirais avoir votre opinion, Arkad Makarovitch, c'est que, croyez-le bien, votre affection m'est précieuse. Si vous saviez, Arkad Makarovitch, mon ami, mon frère, ce qu'est Lise pour moi, ce qu'elle a été pour moi tout ce temps !» cria-t-il en se prenant la tête à deux mains.
« Serge Petrovitch, songeriez-vous donc à l'exiler avec vous à Kolmogory ?
Dis-je, effrayé à l'idée que Lise dut passer toute sa vie auprès de ce maniaque. Il me regarda, se leva, fit quelques pas, se tourna, s'assit, et de plus belle, il se comprimait la tête.
« Je vois toujours, en rêve, des araignées, » dit-il.
« Vous êtes sous le coup d'une émotion terrible. Je vous conseillerais, prince, de vous coucher et d'appeler immédiatement le médecin.
« Non, permettez, cela plus tard. Je vous ai prié de venir afin que nous nous entendions au sujet de la cérémonie. Le mariage aura lieu ici même, dans la chapelle. Le consentement est donné et tous m'encouragent. Quant à Lise...
« Prince, ayez pitié de Lise !» exclamai-je. « Ne la tourmentez pas, au moins maintenant, de votre jalousie.
Comment ? » cria-t-il. Et il braqua sur moi des yeux troubles et exorbités. Le mot « jalousie » l'avait touché horriblement. « Excusez, prince, c'est par erreur. Or, prince, ces derniers temps, j'ai connu un vieillard, celui dont je porte le nom. Oh, si vous le voyez, vous seriez plus tranquille. Lise aussi l'estime beaucoup. »«
Ah oui ? Lise ? Oui, oui, c'est votre père ?
Oh, pardon, mon cher, ou quelque chose en ce genre. Je me rappelle, elle m'a raconté, un petit vieillard. » J'en suis sûre, j'en suis sûre. J'ai connu aussi un vieillard. Mais passons, le principal est de s'expliquer. Il faut...
Je me levai pour partir.
Je ne comprends pas,
prononça-t-il sévèrement et avec impatience en voyant mon mouvement de retraite.
Il m'est pénible de vous regarder.
Arkan Makarovitch, un mot encore. Il me prit et me rassit sur la chaise.
Vous avez entendu parler de ce... Vous comprenez ?
Ah, oui, dit Ergatchov, c'est assurément un coup de Siebielkov, exclamai-je, ne pouvant me retenir.
Oui, Siebielkov, et... Vous ne savez pas ?
Il s'arrêta et de nouveau me fixa. Un sourire d'idiot s'épaississait sur sa face qui devenait livide. Quelque chose tout à coup me troubla. Je me rappelais ce regard insistant qu'avait eu Versilov quand il m'avait raconté l'arrestation de Vassine.
Est-ce que...
Voyez-vous, Arkad Makarovitch, je vous ai appelé pour vous expliquer.
C'est vous qui avez dénoncé Vassine?
Non, voyez-vous, il y avait un manuscrit. Vassine l'avait confié à Lise. Celle-ci me le donna par courir. Le lendemain survint entre eux une brouille.
Et vous avez livré le manuscrit aux autorités ?
Arkad Makarovitch ! Arkad Makarovitch !
Ainsi, criai-je en martelant chaque syllabe. Vous, sans autre motif, sans autre but, uniquement parce que le malheureux Vassine est votre rival, uniquement par jalousie, vous avez donné le manuscrit confié à Lise à...
À qui ?
À qui ? Au procureur ?
Il ne me répondait pas. Il restait devant moi comme une statue, avec le même sourire maladif et les mêmes yeux immobiles. Quand tout à coup la porte s'ouvrit et Lise entra. Elle s'évanouit presque en nous voyant ensemble.
« Toi, ici ? »
s'écria-t-elle, le visage bouleversé et en me prenant les mains.
« Toi, ici ? Alors, tu sais ?»
Mais elle lisait déjà sur mon visage que je savais. Je l'embrassai étroitement, violemment, et pour la première fois, je compris pleinement quelle douleur infinie et sans issue s'était abattue sur la vie de cette chercheuse de souffrance.
« Mais peut-on maintenant lui parler ? » dit-elle tout d'un coup. « Peut-on tirer quelque chose de lui ? Pourquoi es-tu ici ? Regarde-le, regarde-le ! Est-ce qu'on peut le juger ? Est-ce qu'on peut ?»
Une souffrance et une pitié infinie imprégnaient tous ses traits. Lui restait prostré sur la chaise. Lise avait raison, c'était un irresponsable. Le même jour, on l'évacua sur l'hôpital, et dès le soir, un transport au cerveau se déclarait. 4. En quittant le prince et Lise, il était 1 heure de l'après-midi. Je me rendis à mon ancien logement. Le temps était humide, sombre, venteux. Le logeur se réjouit de me voir, et avec une ostentation agaçante en pareil moment. Je fus très froid et montai immédiatement chez moi. Mais il me suivit, et bien qu'il n'osât pas m'interroger, la curiosité brillait dans ses yeux. En dépit de l'urgence pour moi d'apprendre quelque chose, il me répugnait de le questionner. Je m'informai de la santé de sa femme et nous passâmes chez elle. Elle m'accueillit avec affabilité, mais avec un air presque mystérieux et sans manifester le désir de causer. Je finis cependant par apprendre des choses assez étonnantes.
Monsieur Lambert est venu 3 fois. Il a visité toutes les chambres.
Il a laissé espérer qu'il louerait.
Daria Onésimovna est venue aussi.
Dieu sait pourquoi. Ah, elle est bien curieuse.
Je me retins de questionner.
Le propriétaire crut de son devoir de devenir tout à fait mystérieux et laconique.
« Mademoiselle aussi est venue, »
ajouta-t-il en me regardant étrangement.
« Quelle demoiselle ?»«
Anna Andreïevna. Elle est venue deux fois. Elle a fait connaissance avec ma femme.
C'est une charmante personne, très agréable. On ne saurait trop apprécier une telle relation, Arkad Makarovitch. »
Ce disant, il fit un pas vers moi. Il tenait visiblement à ce que je comprisse quelque chose. La deuxième fois, elle est venue avec son frère.
« C'est Lambert, » pensais-je.
« Non, pas Monsieur Lambert, » devina-t-il d'un coup, comme sautant dans mon âme avec ses yeux. « C'était bien son frère, le jeune Monsieur Versilov. Il est chambellan à la cour, il me semble. »
J'étais très confus.
Il me regardait d'un sourire paterne. « Ah, cette demoiselle française, Mademoiselle Alphonsine de Ver Daigne vous a demandé aussi. Ah, comme elle chante bien, et comme elle déclame bien les vers. En cachette, elle allait aussi chez le prince Nicolas Ivanovitch à Tsarskoïe-Selo. Elle est allée lui vendre un petit chien noir, très rare, gros comme le... » Prétextant un mal de tête, je le priai de me laisser seul. Il me satisfit immédiatement, sans même terminer la phrase. Et non seulement sans manifester le moindre déplaisir, mais presque avec joie. Il se contenta de se frotter mystérieusement les mains comme pour dire « je comprends ». Et il sortit de la chambre sur la pointe du pied. « Il est vraiment des êtres bien importants ». Je restai seul à réfléchir, 1 heure et demie. À réfléchir? Non, plus exactement à rêvasser. Confus, plutôt que surpris. J'attendais pis. J'étais fermement convaincu, et depuis longtemps, que la machination se poursuivait grand train. Moi seul leur manque, pensais-je. Ils me désirent de toute leur force, et combinent quelque chose dans mon appartement même. C'est clair comme le jour. Ne serait-ce pas le mariage du vieux prince? Il se trame une embûche contre lui. Oui, mais permettrai-je, messieurs? Voilà la question. Conclus-je avec une satisfaction orgueilleuse. Je me sentais entraîné dans le gouffre. Suis-je encore libre ou ne le suis-je déjà plus? Telle fut la question qui me hanta pendant 1 heure et demie, passée sur l'angle du lit, les coudes aux genoux et la tête dans mes mains. Au fond, je vois déjà que toutes ces réflexions sont des sottises et qu'en réalité, c'est elle qui m'entraîne. Elle et elle seule. Enfin, j'ai dit cela, je l'ai tracé sur le papier. Et aujourd'hui même que j'écris ces choses révolues depuis 1 année, je ne sais encore comment nommer ce sentiment. Oh, que j'avais pitié de Lise, et que mon cœur souffrait. Du moins, cette souffrance pouvait-elle étouffer en moi, pour un moment, l'instinct carnassier. Mais une curiosité terrible m'entraînait, et une peur vague, et encore un sentiment indéfinissable, mais que je sais, que je savais déjà, être un sentiment pervers. Peut-être aspirais-je à tomber à ses pieds. Peut-être voulais-je lui faire subir toutes les souffrances. Le souvenir de Lise ne pouvait déjà plus m'arrêter. À 3 heures, je me ressaisis. Je compris que j'avais déjà trop tardé. Je sortis au plus vite et me précipitai chez Anna Andreïevna.